plus quotidien, enfin hebdomadairement ici. On est en Allemagne, mais c'est vrai qu'on se sent quand même vraiment appartenir à une grande famille. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent passer nous voir, on est en Bavière. On sera content de vous accueillir, de vous montrer aussi l'église où on va. Même si on ne comprend pas forcément la langue, on sent quand même qu'on partage vraiment une fraternité, et c'est toujours sympa. Voilà. Petit aparté. Autrement, donc dans le message d'aujourd'hui, je voulais commencer au XVIIe siècle. Il y a deux conceptions du monde qui s'opposent. En fait, il y a l'héliocentrisme. Alors en fait, c'est une théorie comme quoi la Terre est au centre de l'univers et tous les astres tournent autour. C'est défendu par la plupart des personnes, l'Église en particulier, qui a un pouvoir religieux, politique et varié. Et puis, on a une autre théorie qui est défendue par quelques personnes qui utilisent d'autres moyens, qui regardent, qui ont un regard un petit peu décalé, et qui défendent le fait que, en tout cas au niveau du système solaire, c'est le Soleil qui en est le centre, que nous, on est simplement une planète qui tourne autour, et voilà. Aujourd'hui, on va voir un petit peu une situation similaire où il y a deux conceptions qui s'opposent, qui ne sont pas forcément compatibles, enfin qui ne sont pas compatibles, et à un moment, il faudra trancher sur l'une ou l'autre des positions. Donc on va voir, on est dans la suite de notre série sur les rois. Donc on a commencé au début du chapitre 17 avec en fait l'arrivée d'Élie. Et puis là, on poursuit petit à petit. Je voulais reposer un petit peu le contexte. Donc là, en fait, on est vraiment dans le grand récit de l'histoire d'Israël. Et en particulier, une fois qu'Israël est revenu de l'esclavage et est dans le pays d'Israël, enfin, le peuple d'Israël est revenu, du coup, sur le lieu géographique d'Israël. Voilà, on a la conquête du pays promis, puis une royauté, une monarchie unifiée avec trois rois, avec Saül, David et Salomon. Et puis, à la fin du règne de Salomon, il y a commencé à avoir de l'idolâtrie. Donc en fait, Salomon, qui a commencé son règne vraiment en suivant Dieu, n'a pas complètement détourné son regard à la fin, mais était sur un entre-deux. Il avait des femmes, des concubines qui venaient d'autres tribus, qui adoraient d'autres dieux. Et ça a commencé à être une période qui fut compliquée, du coup, pour Israël. Juste après, en fait, du coup, le règne de Salomon, la royauté a été divisée en deux. Donc on avait Juda au sud et au nord, on avait Israël. Donc là, vous voyez un petit peu la frise chronologique avec les différents rois. Il y a certains rois où on connaît beaucoup de choses, il y en a d'autres on ne connaît pas grand-chose. Mais en tout cas, à chaque fois dans la Bible, il est dit si c'est un roi qui a suivi Dieu ou pas. Il y a un petit code couleur qu'on ne voit pas trop. En vert, en fait, c'est les rois qui sont restés dans les pas de Dieu. Donc, en fait, là, il y en a deux après Salomon. Il y a Asa et Josaphat. Et puis, autrement, tous les autres se sont détournés ou en tout cas ont fait des choses qui ont déplu à Dieu. Et c'est vraiment l'idolâtrie dont on parle. Voilà. Notre histoire se situe sous le règne d'Akab. Donc, voilà, c'est à peu près 60 ans après la fin du règne de Salomon. Il y a eu pas mal de péripéties, mais on peut voir en tout cas que les rois qui restent dans les pas de Dieu ont des règnes qui sont plus longs et qui sont plus apaisés que ceux qui s'en détournent. Ensuite, le règne d'Akab, donc le chapitre qui présente Akab est tout de suite clair. Il dit « Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». C'est clairement l'idolâtrie. Et il dit même qu'il fut pire que tous les rois qui l'ont précédé. En fait, il y a un point qui est important, c'est que Akab se maria à Jézabel, qui adorait les Baals, mais on n'est plus resté dans un entre-deux. Ce qui s'est passé là, c'est que Jézabel a vraiment cherché à mener une guerre contre Dieu. On n'est plus dans une cohabitation pacifique, floue ou autre. Là, Jézabel, en fait, à un moment, a demandé même l'extermination de tous les prophètes de Dieu. Alors, elle n'a pas complètement réussi. Il y en a certains qui ont été sauvés. On ne sait pas vraiment ce qu'ils sont devenus, mais voilà, on parle de quelques-uns qui ont été sauvés. Et puis, il y a Élie qui est encore là pour être un des personnages centraux de cette histoire. Ensuite, dans les premières actions d'Élie, donc ça, c'est ce qu'on a vu les derniers dimanches, il y a deux semaines et puis la semaine dernière. Alors, d'abord, en fait, Élie a été sur l'ordre de l'Éternel, voir Akab, et il l'a averti que il y aurait plus d'eau en fait dans le pays, il y aurait plus de pluie, il y aurait plus de rosée, voilà, dans un pays qui est majoritairement agricole et enfin qui vit d'élevage et d'agriculture, ça veut dire la famine et la désolation. Ensuite, il est parti se réfugier là où le Seigneur lui avait indiqué. Et il ne manqua de rien. Donc c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec Didier. Il est même sorti du pays où régnait Akab. Akab l'a cherché longtemps, mais il ne l'a pas trouvé parce qu'il était en dehors des frontières de son royaume. Et de manière assez miraculeuse, il manquait de rien. D'abord, il était au bord d'un ruisseau, donc il avait un peu d'eau, et c'est les corbeaux qui lui apportaient de la nourriture. Et puis ensuite, quand le ruisseau s'est tari, il est parti plus loin et il a été accueilli par une veuve qui, de manière voilà, surnaturelle, a eu pendant toute la période de privation d'eau de la farine et de l'huile qui se renouvelaient en abondance. Un point... Et aussi qui permet aussi de mieux comprendre la relation que Élie avait avec Dieu. Et c'est peu fréquent quand même dans la Bible. À un moment, le fils de la veuve mourut et Élie demanda à Dieu de le ressusciter et Dieu l'a exaucé. Donc là, on est vraiment sur un miracle. Assez incroyable. Et puis, juste avant notre histoire, donc là, c'est vraiment au début du chapitre 18, on ne l'a pas lu, mais au bout de 3 ans, Dieu dit à Élie, retourne voir Akab, la privation d'eau va toucher à sa fin, je vais renvoyer la pluie sur le pays de Juda. Et donc, du coup, voilà, on est au moment, là, au début de notre histoire, où Élie va retourner voir Akab, qui l'a cherché pendant un moment. Voilà. Juste, là, on parle d'Abdias. En fait, Abdias était conseiller d'Akab, mais il est resté du côté de Dieu. Ça ne devait pas être une position évidente. Il a même été dit qu'au moment où Jézabel avait cherché à exterminer... les prophètes de Dieu, lui en a caché et les a nourris pour qu'ils puissent s'en sortir. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Donc l'informa de la rencontre avec Élie. Élie s'est d'abord montré à Abdias et lui a dit, il a demandé à Abdias d'aller voir Akab pour l'avertir qu'il revenait. Et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab eut-il aperçu-t-il Élie, qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mange à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu !» Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Donc c'est un texte extrêmement riche. La première partie que je voulais aborder, qui est peut-être quelque chose qui peut surprendre un petit peu, c'est « Dieu ne compte pas ». Alors il faut bien le comprendre, il y a deux sens. Ce n'est pas « Dieu ne compte pour du beurre », mais c'est vraiment « Dieu ne calcule pas, ne quantifie pas ». Et voilà. On va déjà commencer par présenter les différents personnages de cette histoire. Alors au début, y a Abdias, donc j'ai déjà parlé de ce qu'il faisait. Il est resté du côté de Dieu malgré le contexte politique et royal qui était vraiment contraire. Ensuite, on a Élie, donc on en a déjà parlé les deux derniers dimanches, et puis j'en ai déjà parlé dans le contexte. On a Achab. Donc Achab, c'est un roi. Parfois, on se demande s'il est roi. En fait, il suit sa femme quand elle lui dit quelque chose. Là, il y a Élie qui est là, qui lui dit quoi faire. Bah, il suit. En fait, il est. On a l'impression qu'il se range du côté du dernier qui a parlé. Mais en tout cas, il est clairement opposé à Dieu de fait d'avoir accepté. De suivre la politique de sa femme. Ensuite, on a les prophètes. Alors, il y a deux divinités qui sont représentées ici. Parfois, il y en a beaucoup plus. Mais en tout cas, il y a les prophètes d'Astarté et les prophètes de Baal. Qui sont... Les prophètes, ici, alors parfois on utilise le mot prophétiser, mais les prophètes, c'est vraiment des intermédiaires, du coup, entre les hommes et un dieu. Donc c'est peut-être qui pourrait s'approcher parfois d'un prêtre ou autre, mais c'est pas forcément à négliger. En fait, les prophètes, s'ils sont là, c'est qu'ils ont quand même acquis une légitimité à un moment. De quoi ça leur est venu, on ne sait pas exactement, mais ils ont réussi à asseoir une position dans le peuple. Quand on regarde l'histoire a posteriori, on se dit facilement, il n'y avait pas besoin de les suivre. Finalement, il faut bien se remettre dans le contexte. À ce moment-là, c'est quand même eux qui représentent la religion, en tout cas d'État, et ce qui... Et c'est eux qui ont vraiment la puissance de leur côté. Et du coup, le premier point que je voulais noter, c'est que Dieu ne compte pas les forces en présence. C'est vrai que là, on peut regarder les différents cercles. Alors, c'est proportionnel. Hein, voilà. Élie et Abdias, bah, ils sont presque tout seuls. Ça ne représente rien par rapport aux prophètes en face. Et malgré tout, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il est prêt à relever le défi. Et ensuite, le dernier personnage, mais c'est le peuple, alors qui répond comme un seul homme à chaque fois qu'il dialogue. Mais en fait, à l'intérieur du peuple, il y a une multitude d'individus. Et dans la suite de l'histoire, en fait, c'est chacun des individus qui est appelé à se positionner. L'enjeu vraiment de cette histoire, c'est de demander au peuple de se positionner et de le ramener vers Dieu. Là, on voit que y a une partie du peuple qui est d'un côté. Élie et Dieu, en discutant, en parleront plus tard dans l'histoire. Et puis, il y a une partie du peuple qui est de l'autre côté. Et il y en a sans doute qui sont neutres au milieu. Voilà. Dans le deuxième point de Dieu ne compte pas, Dieu ne compte pas non plus les péchés du peuple. En fait, on est dans une phase de l'histoire où c'est clair qu'il y a de l'idolâtrie, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais Dieu est prêt à faire une remise à zéro. Tout ce qui s'est passé avant, il n'en tient pas compte et il leur dit, bon, ben voilà, on est ici pour que vous refassiez un choix. Dieu est prêt à ne pas compter les péchés, à la fois les péchés à ce moment-là, mais c'est vrai que Dieu, connaissant notre nature imparfaite, il ne compte pas aujourd'hui non plus nos péchés ou autres. Le but, c'est vraiment d'avoir une relation sincère avec lui et non pas d'être dans la comptabilisation. De ça, je trouve qu'il y a plusieurs points qui sont intéressants, qui ne sont pas directement dans le texte, mais qui sont autour de ce thème-là. Ils ne comptent pas non plus, du coup, nos bonnes actions. On n'est pas en train de dire, tu as fait un péché, tu fais une bonne action, et puis c'est neutre. Tu fais une deuxième bonne action, tu es en positif, tu as un crédit pour autre chose. On n'est pas là-dedans, quoi. On est vraiment dans une relation et pas, du coup, dans un arbitrage. Du coup, moi, ça m'a quand même parlé parce que je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'atteindre une quelconque performance pour nous rapprocher de Dieu. On est vraiment vers un Dieu qui est prêt, du coup, à nous accueillir tel que nous sommes. On n'a pas besoin d'avoir une connaissance personnelle de Dieu importante. Alors, c'est sûr qu'on peut la travailler, c'est un moyen de s'en approcher, mais on peut... C'est pas la peine de se dire je connais pas assez bien Dieu pour pouvoir m'approcher de lui. On n'a pas non plus besoin d'avoir un comportement exemplaire, se dire il faut que je lutte d'abord sur que je combatte tel péché ou autre avant de pouvoir m'approcher de Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas du tout là-dedans et je trouve que c'est libérateur, c'est même en fait l'inverse. En se rapprochant de Dieu, après on va pouvoir être en chemin pour progresser. Si on attend l'inverse, on risque d'être dans une lutte seule et c'est compliqué. Voilà. Du coup, dans les différentes applications, en fait, on voit même que le fait de vouloir tout compter, quantifier et tout ça, c'est un piège qui peut nous éloigner de Dieu. Je voulais souligner deux exemples comme ça dans la Bible. À la fin du règne de David, du coup, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 24, David se met à faire un recensement de son peuple, mais en fait, il ne recense pas les personnes pour savoir combien il y a d'individus dans son peuple, il recense les hommes en capacité de combattre. En fait, là, à un moment, il y a eu une bascule. David, il a participé à la majorité de la conquête du pays promis. Et à un moment, en fait, ça montre que il compte non plus sur l'Éternel, mais il compte sur les forces, sur son armée. Et c'est vraiment quelque chose qui ressort de ce passage-là. À un moment, quand on commence à faire nous-mêmes des calculs sur « est-ce que mes forces sont suffisantes ?», c'est un des moments où on s'éloigne, c'est le début de l'éloignement avec Dieu. On a un deuxième exemple un peu plus connu dans Luc, chapitre 12, de 16 à 20. C'est le riche qui a des récoltes trop abondantes. Et il commence à calculer, à se dire, là, j'ai beaucoup de richesses, mais mes greniers sont trop petits. Bon, je peux les casser, en reconstruire de plus grands, je pourrais plus stocker. Outre le caractère un petit peu égoïste de cette démarche, il y a aussi le fait que, par nos calculs et tout ça, en fait, on veut se subvenir nous-mêmes à nos besoins. Et voilà. Bon, je vous avoue que c'est une vraie lutte pour moi. Je veux dire, c'est pas évident de se détacher de ça. Je pense qu'on est quand même aussi appelé à bénéficier de nos compétences. Mais faut se dire, quelle est la finalité? Je veux dire, à l'église aussi, on a besoin d'un trésorier. C'est pas mal de savoir faire de la compta ou autre. Mais voilà, à un moment, si on veut juste calculer pour gagner plus, pour ensuite avoir le plaisir de plus calculer et tout ça, à un moment, ça n'a plus de sens et Dieu n'est pas là-dedans. C'est vrai que, et puis Dieu, c'est vrai que se révèle en dehors de ce qui se quantifie. Alors bon, il y a un an, j'ai fait un message sur la foi et la raison et le fait que par la raison, on arrive à s'approcher de Dieu. C'est vrai qu'il y a cette possibilité-là. Mais quand on voit, par exemple, les fruits de l'esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, il y en a d'autres encore, ça ne se quantifie pas, en fait. Il y a l'amour, il n'y a pas d'amour au maître. Est-ce que toi, tu m'aimes plus ou autre? C'est vrai que... Voilà. Donc, et c'est vrai que le fait de trop rester dans un certain mode de pensée peut à un moment peut-être nous bloquer aussi dans la manière d'approcher Dieu. Il y a plein d'autres choses qui ne se quantifient pas, la beauté de la création ou autre. On peut encore trouver plein de choses qui ne se quantifient pas, mais qui sont aussi des plans sur lesquels Dieu nous invite à progresser et nous invite à être en relation avec lui. Voilà. La deuxième partie... on se rend compte que Dieu est pédagogue, en fait, dans cette partie, de deux manières différentes. En fait, il est à la fois, là, on se rend compte parfois qu'il est prêt à la confrontation. Le but, c'est pas de forcément être d'accord à la fin, mais par contre, c'est de poser ses positions. La première confrontation qu'on a, c'est avec Akab. C'est un dialogue qui est en fait très court. Chacun expose son point de vue. Akab dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie lui répond de manière très claire. C'est le fait de s'être détourné de Dieu qui fait qu'on est arrivé à cette situation de famine et cette situation difficile. Donc voilà. En fait, ça ne va pas plus loin, mais en tout cas... Dieu, par l'intermédiaire d'Élie, donne clairement des explications. Il n'y a pas, il y a pas d'ambiguïté. Et voilà. De toute façon, je pense que Dieu a arrêté de croire que Akab pouvait revenir vers lui, mais il voulait être clair par rapport à ça. Et puis, bien sûr, du coup, il y a la confrontation avec les prophètes de Baal et d'Astarté. Le but étant aussi de démontrer sa puissance. Les prophètes de Baal et d'Astarté, emmenant avec eux une partie du peuple, apparaissent comme un ennemi pour Dieu. Voilà. Et puis ensuite, il y a un deuxième moyen pour Dieu d'être pédagogue. Et là, c'est vrai que c'est que Dieu est prêt aussi parfois à la démonstration. Alors comme esprit scientifique, ça, j'ai bien aimé quand même, hein, parce que si on revient juste avec notre histoire d'héliocentrisme et de géocentrisme, Donc, au début du XVIIe siècle, Copernic a déjà émis les premiers doutes. Et puis, ensuite, Galilée, en inventant, en perfectionnant la lunette astronomique, a pu observer de manière plus fine ce qui se passait dans le ciel. Et avec un certain nombre de constats, a dit mais tout ce qu'on nous dit, ça ne colle pas. En fait, en allant chercher un peu plus loin, en se posant des questions, il est arrivé à la conviction que ça ne collait pas. Il l'a démontré, il a écrit plusieurs ouvrages là-dedans, et malgré tout, ça a reçu un accueil mitigé, voire même un accueil franchement hostile parmi certains. Alors, certains voyaient leur pouvoir menacé, d'autres sans doute comprenaient même pas de quoi on parlait ou ne se posaient pas vraiment ces questions-là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a mis quand même du temps à s'imposer. Donc voilà. Et là, du coup, Dieu, en fait, est prêt à la démonstration. En général, il faut poser clairement les deux points de vue. Élie le fait sans ambiguïté. Si Dieu est Dieu, suis-le. Si c'est Baal, suis-le. Alors, sur l'identité de Baal, qu'est-ce que pourraient être les Baals dans notre vie ? Didier en a un peu parlé la semaine dernière, Samuel le refera dans 2 semaines, donc du coup je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, mais en tout cas, là il y a vraiment un choix tranché qui est demandé. Enfin, voilà. Élie le dit clairement, on ne peut pas rester entre deux. Et puis, après on a presque un raisonnement scientifique où il dit, on ne sait pas trop, voyons qui a raison. Il propose une démonstration avec les taureaux. Le peuple est d'accord. Au final, c'est la suite de l'histoire. Alors, le texte arrête juste avant. Si vous voulez avoir la fin, faut revenir dans 2 semaines. Mais voilà. Et c'est vrai que je trouve que ça nous pose quand même une question. C'est que, là, on a une manifestation vraiment puissante de la présence de Dieu. Mais on peut quand même se poser la question, pour nous, dans nos vies, et pour moi, personnellement, quelles sont les preuves de l'existence de Dieu ? Sur quoi je me base pour dire Dieu existe ? Je trouve que c'est important de s'en souvenir. Et ensuite, le troisième point, c'est quelque chose dont Élie fait preuve, en fait. C'est le courage d'être avec Dieu. En fait, le courage d'être avec Dieu, ça peut sembler évident quand on a participé à la résurrection de quelqu'un quelques années avant, ou quelques mois avant. C'est vrai que ça permet d'avoir un petit peu plus d'assurance dans sa foi. Mais malgré tout, je pense qu'on est tous amenés à faire de preuve de courage aussi dans le fait d'être avec Dieu. D'abord, je voulais revenir sur ce que c'est que le courage. Alors ça, c'est la définition qu'on trouve dans le dictionnaire. C'est une force morale qui pousse à agir malgré les difficultés. Malgré les difficultés, il peut y en avoir plein. Alors, il peut y avoir la peur, mais il peut y avoir le fait que... même si on n'a pas peur, il peut y avoir plein de difficultés, des gens qui sont contre, des difficultés de tout ordre. Et donc, du coup, le courage, c'est le fait de se dire, malgré ça, je continue à avancer. Et après, qu'est-ce qui donne du courage ? En fait, le courage vient quand même de nos convictions. En fait... Si on n'a pas vraiment d'avis sur une question ou autre, on ne va pas vraiment avoir envie de se battre. C'est comme parfois, lorsqu'il y a des guerres ou autres, malheureusement, on est quand même prêt à s'engager, à se battre et même à risquer sa vie, d'abord pour défendre une terre, mais surtout pour défendre des gens qu'on aime, pour défendre une famille, pour défendre un idéal de liberté, des convictions. Et en fait, il faut quand même se rendre compte que le courage vient aussi de nos certitudes, de nos convictions, de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et ensuite, le courage d'agir vient en fait aussi de la confiance dans notre capacité d'action. Là, Élie, on se rend compte que il a suivi Dieu. On ne connaît pas grand-chose avant qu'il apparaisse avec Akab, si ce n'est qu'il était déjà dans les pas de Dieu. Mais par contre, ce que l'on sait entre son apparition dans la Bible et le moment là où il vient confronter Baal, on voit que c'est quand même des éléments forts qui lui permettent d'être puissant, même quand il est dans une position qui pourrait sembler défavorable. Et du coup, dans le courage d'être avec Dieu, il y a quand même le courage de choisir. En fait, c'est un des points centraux de ce texte-là. C'est est-ce que j'ai choisi un camp ? Juste avant, on parlait des convictions. Si on n'a pas vraiment choisi un camp, c'est compliqué ensuite d'aller chercher du courage et d'avancer aussi dans le monde. Parce que, c'est vrai que il y a aussi être courageux. C'est aussi faut le faire au moment où il y a de l'enjeu. Là, dans l'action d'Élie, en fait, le but c'est quand même d'aller rejoindre le peuple, de ramener le peuple vers Dieu. Et il y a un enjeu majeur. C'est pas la peine d'être courageux de prendre des risques ou autre, si ça ne vaut pas le coup. Le but, c'est vraiment que ça vaille le coup. Et ensuite, dans le courage de choisir, en fait, il faut aussi se rendre compte que le fait de ne pas choisir, malgré tout, ça reste un choix. Et c'est vrai qu'il faut en être conscient. Rester entre deux, on peut rester longtemps entre deux. Ça peut être quelque chose qui peut durer toute une vie. À un moment, faire un choix, ça permet d'avancer et puis d'agir par la suite. Et ensuite, dans le dernier point sur le courage d'être avec Dieu, il y a aussi le courage d'être dans la minorité. C'est vrai que c'est pas évident, hein, même le courage de parler de Dieu autour de soi. C'est vrai que moi, jusqu'à il y a quelques années, on me disait, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Moi, je disais, ce que j'ai fait le dimanche après-midi ou le samedi. Ou alors, quand on parlait du dimanche, je disais, j'ai été voir des amis. C'est vrai, on vient voir des amis à l'église. Mais c'est un peu masqué quand même, masqué l'essentiel. Et c'est vrai que ça demande quand même du courage. Et on voit que c'est en s'affirmant aussi en tant que chrétien, qu'on peut avoir une action dans le monde. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de puiser sa force en Dieu. Si on est juste en train de se dire « Ouais, je prends des risques et tout ça pour Dieu et tout », c'est de l'héroïsme mal placé, ça peut mal se terminer. Là, vraiment, Élie, il est resté, tout le long, en fait, il est resté sous le commandement de Dieu. Il a pris... Il y a certaines choses qui ne sont pas explicitement demandées par Dieu, mais il a vraiment suivi ce que Dieu lui a demandé. Et ça lui a donné à la fois cette capacité d'action et ça a donné la puissance à ses actions. Donc voilà, la première chose, c'est quand même construire et développer sa relation avec Dieu. Puis la deuxième, c'est aussi lui faire confiance de manière concrète. C'est parfois lorsqu'on a un choix à faire dans sa vie, prendre le temps du discernement, se dire, lui remettre une situation dans la prière, lui demander quelle est la bonne, prendre le temps aussi d'écouter la réponse. Mais en tout cas, c'est apprendre à lui faire confiance, peut-être faire un pas sur quelque chose qui est difficile pour nous, mais c'est un pas de foi, mais un pas de foi courageux. Et ça peut être, il y a plein de choses, ça peut être dire qu'on va à une église, ça peut être parler devant d'autres chrétiens pour raconter aussi ce qu'on vit avec Dieu, ça peut être parler à quelqu'un de Dieu lorsqu'on en a la possibilité. En tout cas, c'est vraiment là-dedans, il y a plein d'autres formes, mais voilà. Et puis, pour terminer sur une note positive, faut garder à l'esprit que, en fait, être dans la minorité, quand on est du côté de Dieu, c'est quand même rester dans le camp du vainqueur. C'est vrai qu'on se rend compte, là, dans cette situation, que Dieu, par l'intermédiaire d'Élie, il est complètement maître des événements. Il dit au roi ce qu'il doit faire, il dit au prophète, en fait, il ne dit même pas vraiment au prophète ce qu'il doit faire, il demande au peuple ce que les prophètes vont faire, il se retrouve coincé, et voilà, et même le peuple l'écoute. En tout cas, il est vraiment dans une maîtrise complète de la situation. Et puis, il faut garder aussi à l'esprit que, bah, du coup, s'appuyer sur Dieu bouleverse les équilibres. Si on se rappelle des forces en présence au début de l'histoire, bah, en fait, il n'y a aucune chance que la victoire soit du côté d'un ou deux hommes, alors qu'il y a quasiment un millier d'ennemis. Et malgré tout, bon, j'ai laissé sous-entendre la fin de l'histoire, mais malgré tout, ça se termine bien. Voilà. Je voulais terminer par trois questions. Voilà, vous prenez celle qui vous plaît, celle qui correspond à ce que vous avez. Il y a « Te sens-tu prisonnier de ta performance individuelle dans le monde et dans ta relation à Dieu ?» C'est un point qui peut être mûri. As-tu choisi un camp spirituel ? Et est-ce qu'il te manque du courage dans ta relation à Dieu ? Ou quel est le pas de courage que tu pourrais faire dans la semaine ou dans le mois dans ta relation à Dieu ? Pardon. Excusez-moi. Je laisse une minute de silence et puis je terminerai par la prière.